quartier général. Une division de sur-le-banc.ca.
Alors, bonjour à tous. Un petit changement d'alignement aujourd'hui. Alors, oui, effectivement, je me nomme Hugo Reich en compagnie de Simon Duclos, Éloi Fournier, Nicolas Pereira pour cette émission, quatrième édition d'Au Quartier Général, édition baseball. Alors, sans plus tarder, les gars, comme vous savez, la saison qui a pris fin au début du mois de novembre avec une victoire des Astros de Houston. Encore là, tout le monde s'attendait un peu à ça. Les Astros qui ont dominé la saison avec 102 victoires, notamment. Alors, sans plus tarder, on va se lancer. Première question que j'ai pour vous. Justement, on parle aussi d'un phénomène spécial. Éloi, je sais que tu en as parlé dans un de tes articles récemment. Le baseball majeur a connu une éclosion offensive. Ça a été l'année record en termes de coups de circuit, notamment en saison et aussi en série et en série mondiale. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique cette éclosion-là? On va commencer par Nicolas.
Ouais, ben moi, je dirais juste la venue, premièrement, de nouvelles recrues qui sont beaucoup axés sur l'offensive. On peut penser justement à Aaron Judge, à Bellinger, qui ont surpris, qui ont effectué un très beau rendement offensif. Donc seulement ça déjà va avoir aidé. Le baseball majeur, je vous dirais, d'après moi, va être content de ça. On sait que les matchs à caractère offensif sont toujours plus intéressants à regarder pour les spectateurs.
Oui, effectivement, Éloi.
Oui, ben tout d'abord, c'est ça. Il y a deux théories dans le fond. Il y a la théorie des balles modifiées, qui a été avancé par les lanceurs, surtout pas par les frappeurs, on s'entend, comme Lance McCullers des Astros, qui était en série mondiale, puis qui a dit que c'était 100% vrai. Si t'écris avec un crayon à mine 10 000 fois, puis quelqu'un te donne un stylo, tu vas voir la différence. Donc lui a dit ça, il pense que les balles ont été modifiées cette saison seulement. Puis plusieurs lanceurs des Astros pensent ça d'ailleurs, mais bon, ils ont gagné la série mondiale, donc c'est pas grave.
On se plaindra pas.
Ouais, exact.
Mais sinon, une théorie qui est plus réaliste à mon avis, c'est que les joueurs modernes sont plus en mesure de cogner des circuits. On a des parcs, des stades de dimensions similaires aux années 1920. Les gars sont plus gros, les balles sont lancées plus fort, puis elles sortent du bâton plus fort, donc c'est normal qu'on ait une explosion des coups de circuit.
Ouais, on pense notamment à des stades comme le Yankee Stadium ou le Wrigley Field, qui sont faites en petites dimensions justement.
Pour les frappeurs, ouais.
C'est ça.
Comme à l'avantage Aaron Judge peut tirer les bras puis la sortir directement.
Très facilement. Simon?
Écoute, de mon côté, je pense un petit peu, comme Nicolas en fait, il y a beaucoup de recrues qui sont venues aider la Ligue du côté offensif. Mais sincèrement, comme Nico l'a dit, encore une fois, c'est certain que les partisans vont être très heureux de ça parce que ben, c'est un petit peu en fait, je plug ça comme ça, mais même au hockey, on souhaiterait aussi qu'il y ait une éclosion offensive qui est majeure et donc certainement que les gens sont très contents de cet aspect-là de la Ligue en ce moment.
Avant de poursuivre, je tiens juste à dire que Simon va être notre homme de médias sociaux aujourd'hui. Ouais. Alors,
oui.
Et il va s'occuper de tweeter et faire des posts au fil de l'émission. Si vous avez des questions, des commentaires...
N'hésitez pas.
Ouais, gênez-vous pas. On est là pour répondre. On est là pour avoir du plaisir. Pour ma part, moi, je crois que, un peu comme tu l'as dit, Éloi, les joueurs sont mieux préparés. Ils prennent plus la peine d'accentuer leur jeu sur la performance. Et c'est pour ça qu'ils vont aller plus au gym. Ils vont apprendre des nouvelles techniques pour frapper, pour avoir une meilleure approche au bâton. Alors, c'est sûr que ça encourage. Encore une fois, comme tu l'as dit, les lanceurs lancent davantage plus fort. On pense à des Severino, on pense à des Herrera avec Kansas City qui lance en moyenne des 95 et au-dessus. Alors, c'est vraiment des facteurs importants. On va continuer avec la deuxième question. Dans le fond, c'est parmi les joueurs qui ont connu une excellente saison cette année, ben, notamment il y a Aaron Judge, les recrues Aaron Judge, Cody Bellinger qui ont gagné le titre de recrue de l'année aussi. C'est quand même assez impressionnant. De la part des deux, on sait aussi qu'ils ont eu leur première apparition au match des étoiles cette année. Alors, on lève leur chapeau. Sinon, il y a Jose Altuve, Giancarlo Stanton et naturellement Mike Trout qui revient, même s'il peut aller dans l'ombre. On sait cette année qu'il a connu une blessure, alors n'a pas obtenu les résultats escomptés, mais a tout de même affiché des chiffres remarquables. Si vous aviez à choisir justement parmi ces joueurs-là, les gros joueurs d'impact dans la MLB, selon vous, lequel pourrait connaître une meilleure saison l'année prochaine, qui pourrait rebondir et même en surprendre davantage?
Bien, c'est sûr, moi je te dirais, connaître une meilleure saison, ça risque d'être justement Mike Trout qui pourrait connaître une meilleure saison. C'est sûr, il y a eu l'effet blessure cette année, comme tu l'as mentionné. Moi, je pense aussi le fait que Judge et Bellinger sont des recrues. On ne sait pas à quoi s'attendre nécessairement d'eux pour l'an prochain. C'est sûr, ils ont montré qu'ils pouvaient élever leur jeu d'un cran, peu importe le moment de la saison. Mais on sait que souvent, il y a la gang de la deuxième année dans le sport professionnel. Donc moi, je me dis, peut-être Mike Trout va justement avec sa constance, son expérience. Il est quand même dans la ligue depuis que 19 ans, il est rendu à 26 ans, va entamer sa huitième année. Moi, je crois que justement, va pouvoir monter son jeu d'un cran encore une fois. Il ne faut pas oublier qu'il a été aussi le MVP 2016. Donc,
exact.
Pourquoi il pourrait pas justement rééditer l'exploit pardon, cette année?
Encore une fois, Mike Trout, il démontre à chaque année, je crois, qu'il est un prétendant à ce titre. Alors,
à chaque année, oui. Oui, ben c'est ça. Mais il faut définir c'est quoi une bonne saison. Est-ce que si c'est un nombre de circuits très élevé, ça serait assurément Stanton.
Ouais.
Ben pour moi, j'irais avec José Altuve. Pourquoi? Parce que c'est le joueur le plus complet. On parle d'un excellent joueur défensif qui maintient une moyenne au bâton d'à peu près 340, le plus ou moins, à chaque saison.
Ouais.
Il frappe 40 doubles, vole une trentaine de buts, gagne une vingtaine de circuits. Donc pour moi, c'est certainement le joueur le plus complet. Mike Trout frappe environ 300. Altuve quand même 40 points de pourcentage de plus. Mais Trout, d'après moi, c'est le deuxième meilleur joueur complet dans ceux que tu as nommés.
Effectivement, pour ma part aussi, je vais poursuivre en continuant sur Dallancé. Moi, je trouve que José Altuve vient amener le baseball à un autre niveau, surtout par le fait qu'il est très complet dans sa manière de jouer, tu l'as si bien dit. Il est aussi fiable en termes défensifs pour être prétendant pour un grand d'or aussi. Alors, non, José Altuve, définitivement, un joueur à surveiller. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans la MLB et déjà fait sa marque. Je crois qu'il vient de finir sa quatrième année. Alors,
il a juste 27 ans.
Enfin. Oui, exact. Alors, en prenant tout ça en considération et un apport très, très énorme pour les Astros de Houston, notamment parmi les Correa de ce monde et George Springer, qui ont été aussi des fighters importants dans la Série mondiale face aux Dodgers. Mais José Altuve est vraiment une petite mine d'or pour Houston.
Et je suis surpris que personne n'ait nommé Stanton. Il a quand même été nommé joueur par excellence aujourd'hui même,
oui,
en fait.
Donc... effectivement, aujourd'hui, oui. La nouvelle sort, pour ceux qui ne savent pas, Giancarlo Stanton, qui a été nommé le joueur le plus important de la Ligue nationale, notamment à cause de ses 59 circuits et son apport aux Marlins de Miami, qui ont connu une saison plutôt difficile. Alors, chapeau encore une fois. Ça avait l'expression qu'il va courir, je crois, puisqu'il y a eu plusieurs trophées individuels, plusieurs prises individuelles qui ont été remis au fil des derniers jours. On pense notamment aussi à Corey Kluber, Max Scherzer, qui ont remporté le trophée Cy Young hier. Alors, on en reparlera plus tard, mais oui, effectivement, des lanceurs aussi qui ont été dominants cette année. Simon, pour ta part, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux pour l'instant?
Ben, je regarde ça en ce moment. Donc, en ce moment, moi, de mon côté, je suis en train de tweeter le fait qu'on est en direct sur l'émission. Et évidemment, je vous invite encore une fois à nous lancer vos commentaires pour que plus tard dans l'émission, je puisse y répondre du côté Twitter et Facebook également.
Mais c'est ça. Encore une fois, Stanton frappe juste 281 de moyenne. Ouais. Donc, il faut garder ça en considération, là. C'est sûr que c'est un joueur très utile. L'année passée, 2016, 240 de moyenne seulement. Mm-hmm. Donc,
exact. C'est des frappeurs de puissance qui ne touchent pas la balle nécessairement à toutes les fois. On pense aussi à Aaron Judge. Aaron Judge a fait environ, a fait 52 circuits cette année et a frappé pour 286 encore une fois. Ouais,
puis beaucoup de retrait au bâton.
Aussi, une séquence de, je crois, 27 ou 29 présences au bâton avec au moins un retrait sur trois prises. Alors, à surveiller pour Aaron Judge dans les années à venir. Mais encore une fois, recrue en apprentissage, va être à sa deuxième année complète dans la MLB l'an prochain, qui est arrivé à 25 ans. Alors, c'est quand même un peu en retard. Mais on pense même pas à Yuri Gurriel, qui lui est arrivé à 35
ans. Au baseball, c'est toujours un peu plus tard que au hockey et tout ça, pour ceux qui suivent ces sports-là. Au baseball, ça prend toujours un peu plus de temps de développement, surtout pour les lanceurs, mais les frappeurs aussi. À l'occasion, ça peut prendre jusqu'à 23-24 ans pour percer.
Oui, exactement. Alors, on va poursuivre sur un autre aspect du jeu qui est très important, les lanceurs. Comme j'ai dit un peu plus tôt, Max Scherzer et Corey Kluber qui ont remporté le trophée Cy Young dans les deux ligues respectives. Des lanceurs qui ont été complètement dominants cette année. On pense notamment aussi à des lanceurs comme Clayton Kershaw, Jake Arrieta qui a été là, même s'il a connu une saison un peu plus difficile. En prenant tout cela en considération, en prenant aussi qu'il y a des bons lanceurs qui ont été dans l'ombre, je pense à Madison Bumgarner des Giants, qui remportera le trophée Cy Young l'année prochaine?
On est encore tôt.
Ouais, on est encore tôt
pour définir. Moi, je dirais, j'irais avec une valeur sûre en Clayton Kershaw. Cette année, justement, il était même dans la course pour le Cy Young. finalement, justement, ne l'a pas eu. Mais il est toujours aussi dominant avec les années. Oui, il l'a gagné déjà trois fois en 2011, 2013 et 2014. Pourquoi pourrait-il pas le refaire? On voit que cette année, il était encore dominant au niveau des victoires, premier dans la Ligue. La meilleure moyenne de points mérités de 2.31, donc dans la Ligue nationale. Moi, selon moi, de Clayton Kershaw pour la nationale a le Cy Young l'an prochain.
Parfois, on fera la nationale, puis on fera la
Américaine après, les gars. Oui, c'est une bonne idée, oui, c'est ça. Donc, je sais plus si c'est Platon ou Aristote qui disait « Pitching is the name of the game », donc c'est un philosophe, en tout cas, qui disait ça. Bref, je vais y aller avec Kershaw aussi. Même s'il vieillit un petit peu, il reste, selon moi, le meilleur lanceur au monde parce que c'est tellement rare qu'il y ait une mauvaise sortie ou même juste une sortie ordinaire. Habituellement, il donne 0, 1 point, peut-être 2. Puis sa façon de lancer n'est pas seulement axée sur la vitesse. C'est aussi ses balles à effet, c'est aussi viser les coins. Donc, il ne sera pas comme Tim Lincecum ou d'autres lanceurs comme ça, obligé de réapprendre à lancer complètement en vieillissant. C'est pour ça que je pense qu'il va rester dominant pour les années à venir.
Il ne faut pas oublier, il n'a même pas encore 30 ans non plus. Là. Il vieillit, mais...
Exact.
Quand même, tout un lanceur.
Ouais, exact. Clayton Kershaw, je vais poursuivre sur la lancée, les gars. Clayton Kershaw qui est dominant d'année en année, justement, comme tu l'as dit, joue du baseball intelligent, a une approche lorsqu'il embarque sur le monticule, pardon, très intelligente. Encore une fois, on peut juste penser à sa motion coupée, qui est très lente, et le mélange de justement sa balle courbe qui est vraiment, vraiment dominante. Là, on sait qu'elle est très dévastatrice. Alors, Clayton Kershaw devrait définitivement être un prétendant au Trophée Cy Young l'année prochaine. Encore une fois, pour les Dodgers, on souhaite qu'il n'y ait pas de blessure, même s'il y a des lanceurs comme Alex Wood, Yu Darvish qui est arrivé en fin de saison, et Rich Hill qui sont capables de faire le boulot aussi, mais qui tranquillement pas vite ne sont pas de calibre. Ben, autant, ne sont pas au même niveau en fait que Clayton Kershaw. Alors, c'est ça. Pour ma part aussi, je pense que c'est ça. On va revenir à Simon. Je pense que tout est encore correct.
Je vous tiens au courant des mises à jour.
Parfait. Alors, dans l'américaine, à cette heure, on va changer de sujet un peu.
Ouais.
Ben, en fait, on va changer de ligue, en fait.
Oui, ben moi, dans l'américaine, je vais y aller avec Chris Sale des Red Sox. Connaît une évolution constante depuis le début de sa carrière. Ça s'améliore constamment. Justement, en 2015, on parlait d'une moyenne de points alloués de 3.41. L'an dernier, 3.34. L'an dernier, 2016, pardon. Oui. Et l'an dernier, 2.90. Donc, ça va toujours à s'améliorer de ce côté-là. Il arrive aussi au pic de sa carrière, à 28-29 ans. Donc, va devoir montrer qu'il fait partie de l'élite. Je crois qu'il l'a quand même déjà démontré au cours des dernières années. Mais je crois que ça serait son année pour lui. Il a déjà été dans la course pour le Cy Young dans les dernières années. Ça pourrait être son premier cette année.
Oui, moi j'y vais avec un choix différent cette fois. Ouais. J'y vais avec Luis Severino des Yankees, qui a seulement 23 ans. Ses statistiques ne sont pas encore dominantes comme celles de Chris Kluber ou Chris Sale. Corey Kluber, pardon, et Chris Sale. Mais ces deux lanceurs-là vont commencer à peut-être perdre de l'efficacité au courant des prochaines années. Mais Severino, il est sur la pente montante à 23 ans. Il a fini troisième dans le vote pour le Cy Young cette saison. Puis je le vois facilement monter au premier rang dès l'an prochain avec une équipe améliorer encore chez les Yankees.
Effectivement, je crois que les deux lanceurs que vous avez nommés, les gars, sont probablement les prétendants les plus populaires en termes de vote pour le trophée Cy Young. Je vais y aller comme toi, Eloi. Vraiment, là, t'es dans ma tête aujourd'hui, Luis Severino, qui est très, très, très dominant. On pense aux Yankees qui ont connu une éclosion. C'était une année de 2007 a été une année de reconstruction pour l'équipe de Joe Girardi. Mais encore une fois, le départ de l'entraîneur, on va voir ce que ça va donner.
Plus exact. Plus son équipe,
ouais. Exact. Joe Girardi qui a quitté l'organisation, on va voir ce qui va se passer du côté des Yankees, mais avec les Judge, avec les Didi Gregorius, Brett Gardner qui sont encore très forts, Aaron Hicks, il y a du bon sport offensif. Luis Severino, encore une fois, qui est un lanceur dominant, une bonne vélocité sur sa balle rapide et a un effet vraiment incroyable. Est encore en phase d'apprentissage, est très jeune, mais devrait être de plus en plus dominant. Encore une fois, si c'est Chris Sale qui remporte le Cy Young, je peux dire que je serais pas surpris aussi. A fait plus de 200 retraits au bâton cette année. C'est quand même assez impressionnant pour un gars qui joue dans sa nouvelle équipe. Alors, en prenant tout ça en considération, les Red Sox sont très bien faits en faisant son acquisition lors de la saison morte. Mais on va voir. On va voir ce qui va se passer. Mais je crois que Severino a des bonnes chances l'an prochain. Faut pas oublier aussi les Corey Kluber de ce monde, qui est un lanceur très dominant aussi. On pense aussi à des lanceurs comme Herrera avec les Royals qui, lui, on sait, est un peu en montagne russe. Les Royals qui ont un peu de difficulté avec leur rotation depuis, malheureusement, la mort de Ventura. Mais en prenant. C'est sûr que c'est difficile, mais Luis Severino devrait être au sommet. Devrait être au sommet de son art l'année prochaine. Et ça serait très intéressant de le voir remporter l'honneur à un si jeune âge.
Oui.
Alors, la prochaine question, là, on voit encore plus loin, je pense. Oui. Pour certains. On va parler de la Série mondiale 2018. Encore une fois, on a parlé des formations qui ont été fortes cette saison, dont les Yankees, les Astros, les Indians, les Dodgers dans la Nationale, les Cubs qui pourraient revenir, on le sait pas. Vous le savez, je suis un grand partisan des Cubs. Enfin, c'est sûr que je vais essayer de le mettre un moment donné dans l'émission. Mais, OK, si on repart à zéro puis on analyse les faits comme ils le sont, selon vous, les gars, et je vais inclure Simon dans celle-là, qui remportera la Série mondiale l'année prochaine? Après ça, je vais vous poser une deuxième question qui est un peu une sous-question, mais on va commencer par les équipes qui s'affrontera et qui va gagner, selon vous.
Écoute, c'est encore très loin.
Très loin. Là.
C'est dans moins de 12 mois quand même.
Ouais, quand même.
J'ai hâte.
Mais évidemment, il y a encore beaucoup de changements à prévoir dans les équipes de justement du baseball majeur. Moi, je crois que les Dodgers sont dus. Déjà l'an dernier, on a vu un bon aperçu avec l'excellente saison qu'ils ont connue, l'excellent parcours éliminatoire. Moi, je crois, selon moi, que les Dodgers sont dus pour l'emporter. Ce serait une première depuis 88. Donc, avec Kershaw, comme que je disais, selon moi, va gagner le Cy Young. Je vais poursuivre sur ma lancée. Puis en plus, ils vont gagner la Série mondiale.
Et oui.
Ben moi, j'ai parlé des Yankees tantôt quand j'ai parlé de Severino. Puis il n'y a pas seulement lui là-bas. Il y a aussi Masahiro Tanaka. Mm. Pardon. On a eu Sonny Gray cette année. Ça se peut qu'il parte, ça se peut qu'il reste. Mais on a beaucoup d'argent si on veut le garder. Comme tu as dit, on a un excellent noyau de joueurs. Je pense que les Yankees, qui sont passés seulement à quelques points de faire la Série mondiale dès cette année avec une équipe jeune que personne n'attendait là, ben là, ça se peut qu'ils signent un lanceur japonais cet hiver en Shohei Ohtani qui frappe pour 300 là-bas. Évidemment, ça ne sera pas un facteur avec les Yankees dans la Ligue américaine, mais quand même, qui est payé 270 millions de dollars au Japon en ce moment.
Un joueur assez important à considérer.
Très important. Il a seulement 23 ans, puis c'est carrément le meilleur lanceur là, au Japon. Puis déjà, une équipe qui était si proche de la Série mondiale, d'après moi, ils ont totalement l'argent pour s'améliorer. Puis les jeunes qui s'améliorent d'année en année, j'ai aucun doute que les Yankees vont faire un grand impact sur la MLB l'an prochain.
Il reste à voir aussi peut-être le changement de manager pour voir ce que ça va donner aussi. Ça risque de changer un peu les choses.
Oui, effectivement. Alors Simon, pour toi?
Écoute, encore une fois, ben Nico, je vais te suivre là-dedans. De mon côté, ça serait aussi les Dodgers. Simplement, écoute, Clayton Kershaw, encore une fois. Je pense que surtout, vu la dernière série mondiale qu'on a connue, je pense que les Dodgers vont s'attendre à une grande revanche de leur côté. Mais... encore une fois, ça peut sortir complètement de l'ombre. Je pense entre autres aux Cubs qui l'ont gagné il n'y a pas très longtemps. Je pense que les Dodgers, oui, vont se reprendre l'année prochaine.
Ben, c'est des très bons points que vous amenez, les gars. Pour ma part, faut pas nier dans l'américaine les équipes comme les Indians, les Red Sox qui donnent beaucoup de fil à retordre aussi aux grosses formations comme les Astros et les Yankees. Mais aussi une formation qui s'en vient, je pense pas vont remporter les grands honneurs, mais qui vont être définitivement à surveiller dans les années à venir, c'est les Twins du Minnesota. Leur gérant qui a remporté gérant de l'année cette année, avec l'éclosion de joueurs comme Miguel Sano, qui a fait partie du match des étoiles, Byron Buxton, qui a été sensationnel en défensive, ainsi que Brian Dozier, qui est quand même un joueur d'impact, a été fiable aux Twins d'année en année. Ça sera définitivement une équipe à surveiller pour les années à venir. Mais pour ma part, les Yankees de New York, encore une fois, démontrent beaucoup, beaucoup de maturité dans leur développement, dans leur construction. Des joueurs qui sont arrivés en relève dans l'alignement n'ont pas posé de questions. On pense à Clint Frazier qui a fait du très bon boulot dans le champ gauche. Aaron Judge, encore une fois. Gary Sanchez qui a connu une éclosion l'année dernière, a juste amplifié son jeu cette année. Et en prenant tout ça en considération, les Severino de ce monde, Tanaka, Sonny Gray. D'ailleurs, ces deux lanceurs-là qui démontrent énormément de volonté à revenir avec l'équipe l'année prochaine. Il va falloir surveiller ça. Toutefois, ma prédiction, ça va être encore les Astros de Houston.
Ah ouais, une deuxième fois.
Ouais, ça va être encore les Astros de Houston.
C'est difficile faire ça. Oui.
Ouais.
Depuis 2000, on n'a pas vu ça, si je ne me trompe pas.
Effectivement.
Avec les Yankees.
Effectivement. La seule et unique raison, les Astros vont pas perdre beaucoup de joueurs lors de la saison morte cette année et ont un noyau de joueurs très, très fort en les Josh Reddick, George Springer, Marwin Gonzalez, Jose Altuve, Carlos Correa, Alex Bregman. Tous des joueurs qui sont jeunes et qui sont furtifs. Lance McMullers qui est un très bon lanceur. On pense aussi à Dallas Keuchel, l'expérience avec Brian McCann derrière le marbre. Alors, en prenant tout ça en considération, c'est sûr et certain que les Astros seront encore des prétendants l'année prochaine. Et je crois même qu'ils pourraient se rendre jusqu'au bout à cause de cette dite éclosion offensive et tout.
Moi, je vais te questionner à propos de ça. Qu'est-ce que tu penses, en fait, qui peut les distinguer, justement, des Dodgers?
Mais encore une fois, je crois que c'est une question de cohésion. C'est facile d'avoir une équipe remplie de talents, mais qui n'ont pas de cohésion ensemble. Je crois que les Astros ont une certaine volonté, notamment à cause de l'ouragan Harvey. Ça a l'air vraiment banal dit comme ça, mais il fallait que l'équipe soit avec elle-même et avec les citoyens de Houston. Et ça crée une certaine chimie, veut pas. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'ils ne pourront pas avoir ailleurs. Okay. Naturellement, aussi des acquisitions comme Justin Verlander, qui a fait la différence aussi en série mondiale. Ça l'aide énormément.
Mais j'aime le point que tu amènes justement de l'ouragan Harvey, parce que j'allais justement t'en parler. Moi, c'est peut-être ce qui me fait peur pour les Astros, justement, de ce côté-là. Parce que je vais revenir, exemple, au hockey. Là, on va penser aux Bruins de Boston. Lorsqu'il y a eu les attentats au marathon de Boston, peu de temps après, justement, on a remporté la Coupe Stanley. C'est arrivé la même chose dans diverses villes à travers le monde. Après, exemple, un gros événement.
Les Red Sox l'ont fait aussi.
Oui, effectivement, aussi, 2013.
Après un gros drame humain, il y a toujours quelque chose qui s'ensuit souvent. Même quelque chose dans le cas de Houston, justement, ou qui ont gagné la Série mondiale. Est-ce que, justement, ça pourrait pas, au contraire, côté... Je n'ai pas préparation, mais côté chimie et tout ça, redescendre après un événement comme ça.
C'est sûr et certain qu'il va y avoir des changements. Ça ne va pas être au même pic, justement, que l'année dernière. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'une équipe se souvient. Si je prends l'exemple des Cubs de Chicago qui ont remporté la Série mondiale l'année dernière, après 108 ans d'attente, veux pas pour les partisans, ils se sont quand même rendus en finale de Ligue. Cette année, en finale de championnat, face aux Dodgers, malheureusement, n'avaient aucune chance. Les Dodgers sont arrivés beaucoup trop forts. Mais il y a une certaine cohésion qui reste malgré le départ de certains joueurs. On pense à Dexter Fowler, naturellement, qui est parti à l'opposition, les Cardinals de Saint-Louis. Alors, je crois que c'est quelque chose qui reste au sein du noyau des joueurs, qui reste à long terme. Et ça pourrait définitivement se reproduire chez les Astros, vu que leur noyau ne change pas à moins des échanges cet hiver et tout. Alors, ça, c'est ma prédiction. Pour ça. Et maintenant, la suggestion que j'ai pour vous autres, quel joueur sera le plus important dans cette série-là? Ça, mettons, vous avez à prendre deux équipes. Quel joueur vous pensez qu'il va faire la différence dans la série mondiale?
Ben, encore une fois, si je retourne avec les Dodgers, que je prédis champion, évidemment, encore une fois, on revient avec Kershaw, mais Bellinger aussi va être un joueur très important. Justement, avant l'émission, Hugo, tu me parlais de peut-être que Stanton aurait un désir de retourner à Los Angeles, peut-être pour les Dodgers.
Exact. Juste pour les auditeurs, Giancarlo Stanton, qui est natif de la Californie, et selon les rumeurs exactement, qui l'enverrait aux Dodgers, serait un ajout incroyable à l'équipe, déjà qui ont un arsenal assez terrifiant.
Et Derek Jeter a dit justement qu'il était ouvert aux transactions.
Exact, exact, oui.
Et pour ceux en fait qui n'étaient pas encore au courant, c'est Stanton qui a gagné le MVP de la Ligue nationale dans la MLB. Ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps. Et on a également Altuve, comme on en parlait tantôt, des Astros, qui a été élu le joueur par excellence de la Ligue américaine de son côté.
Exact.
Et donc, justement, comme je parlais justement de Stanton, c'est sûr, s'il rejoint les rangs des Dodgers, il risque d'être un joueur clé dans une possible conquête de la Série mondiale.
Oui, effectivement. Je tiens à rajouter qu'on parle au futur en ce moment.
Oui, c'est sûr, c'est encore très loin.
Mais hypothétiquement, ça serait ça.
Ce serait possible, oui.
Ouais.
Ben moi, je verrais évidemment, comme j'ai dit tantôt, les Yankees contre les Nationals, parce que quand tu as une rotation de lanceurs avec Scherzer, Strasburg et Gonzalez dans ta rotation, tu peux pas être éliminé à chaque année en première ronde ou en deuxième ronde dans la NLDS et NLCS à chaque année.
Exact.
Donc, d'après moi, l'an prochain, ça pourrait être leur année pour se rendre en série mondiale. Puis avec Max Scherzer, c'est évident. Puis avec peut-être Bryce Harper s'il décide de revenir, mais ils ont des joueurs importants à chaque position, les Nationals. C'est ça qui est intéressant. Et on a Adam Eaton dans le champ. On a plein de joueurs à Anthony Rendon. Puis les Yankees aussi, avec Aaron Judge, avec Severino, avec Brett Gardner. Tout le monde joue très, très bien dans ces deux équipes-là. Donc, ça va être des joueurs très importants.
Effectivement, les Nationals, qui est aussi une autre équipe qui a une bonne base de joueurs, un bon noyau. On pense à Daniel Murphy, Bryce Harper qui était là cette année. Ryan Zimmerman, qui, malgré son âge, a un impact assez étonnant au sein de l'alignement. Anthony Rendon, comme on l'a dit. Jason Worth aussi, qui fait quand même des performances stables d'année en année. Bonne rotation. je vais pas répéter ce que tu as dit. Je pense que tout le monde le sait avec les Strasbourg oui. et tout. Alors, non, effectivement, s'il y a une année, ça serait l'année prochaine aussi pour les Nationals. Alors, ouais, effectivement. Ouais. Pour ma part, je crois que si je continue sur la lancée des Astros, je crois qu'Ozzie Altuve, l'année prochaine, va, si à moins d'une blessure exactement, va connaître probablement l'année de sa carrière. Encore une fois, comme tu l'as dit, Éloi, frappe au-dessus de 340 à chaque année. C'est quand même assez impressionnant. Vole au moins 30 buts chaque année. Et est en développement. Et malgré son jeune âge, a quand même un rôle de leadership dans l'équipe. Et est l'exemple pour plusieurs joueurs, dont Alex Bregman, qui l'a dit en entrevue. Alors, en prenant tout ça en considération, je crois qu'Ozzie Altuve pourrait être le joueur qui ferait la différence pour les Astros. Même si c'est pas lui qui a remporté le titre de joueur le plus important durant la World Series, c'est le chanson George Springer, qui lui aussi a connu une saison exceptionnelle, mais une série mondiale hors du commun. Oui. Il a vraiment eu des performances exceptionnelles, a frappé quand il fallait qu'il frappe, et a fait des jeux défensifs qui a aidé l'équipe. Alors, pour ma part, ça serait Ozzie Altuve. Finalement, la cinquième question, j'allais m'emballer dans le sujet de l'émission, là, alors restez à l'écoute, ça vaut vraiment la peine. On parle des Nationals, il y a beaucoup de rumeurs aussi qui parlent d'une expansion dans le baseball majeur, surtout à Mexico et à Montréal. On va pas le nier, Montréal fait partie des rumeurs. On parle d'équipes comme les Rays de Tampa Bay qui n'ont pas nécessairement un fonds monétaire à faire capoter, si vous me permettez l'expression. Alors, croyez-vous sincèrement à un retour des Expos sous peu?
Personnellement, j'y aurais cru si Denis Coderre avait été réélu.
C'est ce que j'allais
dire. je dirais qu'il voulait vraiment amener une équipe de baseball à Montréal. Je crois que c'était peut-être même le plus grand fan de baseball qu'on avait sur l'île qui souhaitait un retour de l'équipe. L'intérêt de la Ligue, on le voit, il est quand même présent. Il aime le marché de Montréal, ramène des matchs en concours chaque année. Par contre, je pense pas qu'on est rendu là encore. Il y a toujours la question du stade qui va revenir, évidemment. Là, on a posé maintenant une nouvelle toile sur le stade olympique. Par contre, le commissaire de la Ligue a affirmé justement que malgré ça, ça ne sera pas au stade olympique s'il y a une équipe qui revient.
Très important que tu mentionnes ça. Juste avant que tu continues, exactement dans un article publié à RDS, Rob Manfred qui fait exactement mention du fait que même si Montréal a un stade, ça ne ferait pas l'affaire.
Exact.
Poursuit.
Donc, non, mais en fait, c'est ça. C'est là, maintenant, il faut trouver un emplacement et les fonds, évidemment, pour avoir ce stade-là.
Oui. Oui.
Par la suite, il faut s'assurer de remplir les amphithéâtres à chaque année. On s'entend que quand les expos sont partis en 2004, c'était pas plein.
Non,
donc, le problème peut revenir encore une fois. On n'a pas nécessairement un marché complet qui est prêt à accepter justement une équipe à chaque match avec des salles combles. Là, il faut voir à ce moment-là si c'est possible.
Puis c'est parce qu'on a aussi le côté nostalgique dans l'affaire.
Aussi.
C'est sûr qu'en ce moment, si on parle du fait que les expos reviennent demain matin, ben c'est sûr que les premiers mois, ben écoute, ça va toujours être plein parce qu'on est nostalgique, on s'ennuie de ça. Mais sur le long terme, est-ce que ça va être la même chose? Probablement que, comme tu l'as dit, ça va revenir vers la fin des expos. Là, ça sera pas toujours plein. Là. Et c'est ça. Donc, on n'a pas de stade non plus. Donc, faut vraiment vérifier... le cas. Je pense, encore une fois, à la LNH, on a fait la même chose. On a commencé la construction. Ben, on a fini, en fait. C'est terminé le fameux stade Vidéotron qui était possiblement censé accueillir les Nordiques de Québec. Finalement, ça n'a pas eu. On a choisi Las Vegas. Mais donc, c'est sur le stade olympique qui ne sera pas le stade de prédilection si jamais les expos reviennent. Et c'est des procédures qui prennent beaucoup de temps.
Et beaucoup d'argent aussi. C'est le cas de le dire. Alors, je pose une question. Genre, c'est une question comme ça, les gars. Croyez-vous que justement l'effet d'avoir des matchs pré-saison, là ça va peut-être faire 4 ans ou 5 ans que les Blue Jays viennent à Montréal pour leur match pré-saison cette année qui vont faire face aux Cardinals de Saint-Louis, est-ce que vous pensez que c'est assez pour la ville de Montréal, 2 matchs par année pour justement créer une certaine vie de baseball en ville?
Je dirais on veut créer un engouement, mais en même temps c'est dur à évaluer parce que c'est sur 2 matchs. Comme Simon apportait un point, j'aimais bien ça, c'est sur une saison complète, encore là, on ne sait pas ce que ça peut donner.
Exact.
Si on amène, par exemple, une équipe, une dizaine de matchs, c'est sûr que les matchs vont être à guichet fermé parce que les partisans vont vouloir aller voir, ils vont vouloir profiter vu que c'est juste un petit aperçu. Mais sur une saison longue, quand on peut y aller quand on veut, c'est sûr que ça risque d'être plus dur.
Merci, Nick. Éloi.
Ben, premièrement, il ne faut pas oublier que dans les dernières années des expos où Jeffrey Loria possédait l'équipe, on n'avait aucun droit de télé. Donc, les fans ne pouvaient pas voir un seul match à la télévision locale. Il ne faut pas oublier plus que les équipes sur le terrain était horrible à voir jouer. On parle d'équipes qui avaient quelque chose comme 68 victoires, 94 ouais. défaites, des choses comme ça. Ça incite pas les amateurs à venir voir le baseball quand ils savent que lorsqu'ils payent un billet, l'équipe ne va pas les remercier en re-signant les joueurs avec cet argent-là. Ils vont les laisser aller puis mettre l'argent dans les poches des propriétaires. C'était ça, les expos, à la fin. Mais si on est des propriétaires plus sérieux, on pense à Steven Bronfman, on pense à peut-être Mitch Garber, on ne sait pas combien ils sont prêts à mettre là-dedans. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'ils mettent l'argent dans un stade en premier puis qu'ensuite Rob Manfred va les écouter. Et ça pourrait être très problématique dans les prochaines années parce qu'il nous faut un stade en premier. Et on n'a pas de projet en ce moment pour faire un stade. On n'a pas vraiment de quelque chose, on n'a pas d'écho qui nous dise qu'il y a un projet de stade. Alors, une expansion s'en vient dans les majeures, il n'y a aucun doute là-dessus, parce qu'avec les profits qui sont faits, on n'a pas le choix que d'aller tenter d'en chercher d'autres dans d'autres marchés, si on est la Ligue majeure de baseball. Mais est-ce que c'est Montréal? En ce moment, je ne suis pas certain de ça.
Je ne pense pas, moi non plus.
Effectivement, je dois être d'accord avec vous autres, les gars. Justement, les rumeurs, les pourparlers de stade viennent de tout bord, tout côté, mais il n'y a aucune exécution qui se fait et tout semble mal organisé aussi dans ce sujet-là particulièrement. Encore une fois, aussi une question de dirigeants, de propriétaires qui pourraient faire la job. On s'entend que Jeffrey Loria ne faisait pas la job en 2004 et avait déjà ses intentions ailleurs. Maintenant, il est avec les Marlins de Miami. Alors, c'est sûr et certain que moi aussi, je crois que les expos vont pas revenir tout de suite. Justement, à cause de ces mesures d'expansion, oui, sont prises par la Ligue, mais ne sont pas prises par la Ville de Montréal, non. En fait, alors, c'est sûr et certain que ça peut causer certains blocages dans quelques catégories, et ce qui fait en sorte que Manfred est un peu susceptible ou sceptique à l'égard d'une expansion à Montréal.
Mais je pense, justement, ça va être vraiment le stade, en fait, le point tournant, c'est savoir si on va en avoir une ou non, parce que... Le point que j'apporte, de justement, exemple, que ça ne soit pas plein après un certain temps, ça, on va le voir sur le moment, évidemment.
Oui, effectivement.
Donc, ça aide vraiment de savoir si on est capable d'investir pour avoir un nouveau stade. Là, encore là, c'est de savoir est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est des investissements privés. C'est ce qui est en train de négocier lorsque Denis Coderre était en poste. Donc là, on va voir maintenant si avec la nouvelle mairesse, ça va continuer dans ce sens-là. Mais encore là, ça peut juste ralentir les négociations.
Ouais, vas-y,
c'est bon. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que auparavant, c'était surtout les revenus des guichets qui faisaient foi de tout. Maintenant, on a le licensing, on a les ventes de chandail, les ventes de toutes les marchandises des majeurs, on a les droits de télé qui sont très, très chers, qui rapportent beaucoup d'argent aux ligues majeures. Donc, si on a une équipe à Montréal, ça ne va pas être nécessairement est-ce qu'on a une grosse foule au match local du 16 mai contre les Phillies, mais c'est plus à savoir est-ce que les fans sont intéressés à acheter de la marchandise et tout ça, puis les expos vont pouvoir... engranger des profits à ce moment-là.
Et encore là, c'est de ramener une équipe gagnante aussi.
C'est de ramener un stade avant.
Exact. Ouais, parce que vous connaissez Montréal, veut pas, dans tous les sports professionnels, à Montréal, la volonté de gagner est là, la volonté d'être les meilleurs, je crois, est prédominante, omniprésente. Si, mettons, nous avons à faire une comparaison avec les autres villes, je crois que Montréal l'emporte en termes de
désert de victoire.
Ouais, on est un peu bandwagon, en fait.
Oui, aussi.
Non, effectivement. Alors,
on le voit dans l'Impact, juste vite, on le voit dans l'Impact aussi, ou même les Alouettes, c'est pas le sport principal. Les Canadiens, c'est peut-être une petite exception. Quoi qu'on commence à voir justement l'amphithéâtre moins rempli qu'avant, mais quand on parle des Alouettes de l'Impact, si l'équipe ne gagne pas, le stade est vide.
Exact.
Ouais. Donc, c'est le même principe avec les expos s'ils reviennent, évidemment.
Exact. Là, en ce moment, c'est en train de faire un petit peu, ben là, je lance ça un petit peu en l'air, là, mais c'est même avec les Canadiens, on constate que les fans ne sont pas contents. Quand les fans ne sont pas contents, ben c'est pas à guichet fermé.
Exact, exact. La dernière question que j'ai, qui est un peu le sujet chaud de l'émission, même si je l'ai gardé pour la fin, justement, on parle des salaires des joueurs de baseball professionnel. On le sait, Clayton Kershaw, David Price, qui gagnent au-dessus de 30 millions par année, ce qui est quand même une somme énorme. Là. On ne sait même pas ce qu'ils peuvent faire avec 31 millions par année, 33 millions par année, à chaque année. Votre opinion là-dessus, les gars, par rapport aux gros salaires qu'on donne aux joueurs autonomes, surtout les joueurs autonomes d'Impact?
Ben c'est sûr, les gros salaires donnés à des joueurs autonomes vont être aux grosses villes, justement, si on veut, donc aux gros marchés. Personnellement, je crois pas que c'est non plus la meilleure façon d'améliorer les équipes. On le voit avec les dernières années, c'est pas les joueurs autonomes payés au prix qui sont nécessairement les plus productifs après ça. C'est sûr, par contre, il y a toujours des exceptions. Mais c'est sûr, si ça continue comme ça, on va voir des écarts entre les marchés qui vont se créer. On parlait justement du marché de Montréal qui pourrait arriver. Là. Mais encore là, arriver dans des gros écarts comme ça, ça peut être difficile. On regarde les Dodgers qui, l'an dernier, avaient une masse de 265 millions. Donc, une masse salariale de 265. Si on regarde les Brewers, 83 millions.
Oui, effectivement.
Il y a vraiment un trop gros écart. Et le baseball majeur est le seul sport en Amérique du Nord où il n'y a pas encore de plafond salarial. Donc là, c'est peut-être là qu'il y a encore le problème. Si on pouvait faire peut-être un moins gros écart, rapprocher tout ça, ça pourrait être bien à ce moment-là.
Oui, ben moi, j'ai absolument rien contre les salaires élevés des joueurs, du tout. Parce que le baseball, ça reste une business comme l'autre. Puis la vérité, c'est que les gens sont prêts à payer le gros prix pour voir ces joueurs-là évoluer. Donc, le jour où la population va se révolter, si vous voulez, contre le baseball, ben les salaires vont baisser. Mais sinon, il n'y a aucune raison d'en vouloir aux joueurs d'aller chercher leur part du gâteau. Exactement. Parce que, vous savez quoi, s'ils ne le faisaient pas, ce serait les richissimes propriétaires d'équipes qui le feraient. Puis c'était comme ça avant, parce que dans les années 70, on avait la clause de réserve. Les joueurs ne pouvaient pas être échangés. On n'avait pas d'agent libre, on n'avait rien. Les joueurs se sont battus pendant 25 ans pour avoir ce qu'ils voulaient. Puis ça a fonctionné. Les propriétaires ont essayé de faire de la collusion, ont essayé de tout faire dans les années 80 pour pas que les joueurs aillent chercher l'argent qui leur revenait au bout de la ligne. Puis moi, ben, j'aime autant que les joueurs qui travaillent fort toute la saison, contrairement aux propriétaires, on va se le dire, ils puissent profiter pleinement de ce qu'ils valent.
Mais c'est eux qui font le spectacle, en fait.
Ouais, exactement. On est là pour voir les joueurs jouer, pas pour mettre de l'argent dans les poches du propriétaire.
J'ai hâte de voir les proprios arriver avec des battes de baseball sur le terrain, frapper des bases.
Oui, exactement, exactement. Il ne faut pas oublier qu'une saison de baseball, c'est 162 matchs, ouais. Incluant les séries, excluant les séries, en fait. Ouais. Et en plus de tout, les joueurs jouent au baseball de mars à novembre. Alors,
c'est des saisons difficiles.
Très difficiles. Surtout en termes de lanceurs et de receveurs qui, eux, faut pas s'attacher, ont probablement le travail le plus difficile. Surtout, ça fait mal au bras, là, lancer
à répétition comme ça pendant 5 minutes
par année et toujours être un petit bonhomme pour savoir une balle qui rentre à 97 000 à l'heure. Non, on s'entend que c'est pas facile. Pour ma part, encore une fois, je suis un peu mitigé entre les deux, mais vous amenez des bons points. Je crois que je vais tourner vers le point des lois toutefois. Encore une fois, c'est un spectacle. C'est pas pareil dans tous les autres sports professionnels. C'est juste qu'ils ont un meilleur contrôle là-dessus avec les masses salariales. On encourage les joueurs à jouer de la manière qu'ils jouent et à s'améliorer. C'est sûr que l'argent est une motivation de plus. Une énorme somme d'argent, comme des millions de dollars, des millions et des millions de dollars, ça l'aide un joueur à performer, mais il ne faut pas juste se baser là-dessus. Il y a certains joueurs qui se basent là-dessus. Si je fais un petit parallèle avec le hockey, c'est sûr qu'on pense à des joueurs comme Evander Kane, des affaires de même, qu'ils aiment ça faire la fête, ils aiment ça profiter de l'argent qu'ils gagnent. C'est sûr et certain que les performances ne vont pas être là, mais en même temps, voir une grosse somme d'argent comme ça être dépensée pour un joueur, ça peut être aussi une énorme marque de confiance de la direction de l'équipe au joueur pour dire « Hey, on est là, on veut, on donne cette somme d'argent-là pour que tu performes on aimerait ça que tu le fasses. »
Pense à Russell Martin, par exemple. Il a été payé extrêmement cher pour qu'il fasse ce qu'il y a à faire. Et je veux dire, au moment où ça a été fait, ben c'est parce qu'il le méritait.
En effet.
C'est ouais, sûr que les performances, ne sont plus exactement les mêmes de son côté. C'est sûr que c'est difficile d'être constant toujours pour le montant duquel tu es censé valoir. Mm-hmm. Mais,
parlons de Scott Gomez.
Parlons de Scott Gomez, par exemple. Mais non, c'est ça. Si tu es payé un certain montant, c'est parce que, comme Éloi l'a dit, tu mérites cette partie-là du gâteau et parce que tu fais le spectacle.
Effectivement. Je tiens à dire que Russell Martin va être payé 20 millions par année pour le restant des années de son contrat qui reste avec les Blue Jays. Et sa valeur a notamment pris de l'expansion lorsqu'il a connu deux bonnes saisons avec les Pirates, les amenant en séries éliminatoires. Alors, c'est sûr et certain que Martin est une pièce maîtresse chez les Blue Jays présentement. Oui, tu veux dire quelque chose?
Oui, peut-être juste pour clarifier mon point. Tu sais, quand on parle justement de la valeur des joueurs qui est en constante montée, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis un peu du même avis que vous. Justement, c'est eux qui font le spectacle. C'est à eux que doit revenir l'argent, si on veut. Moi, vraiment, le côté où j'ai un problème, c'est le fait justement qu'il n'y a pas de plafond salarial. Ça fait en sorte qu'il y a des équipes, comme on parle, les Yankees, les Dodgers et autres, peuvent donner des contrats extrêmement élevés à des joueurs comme ça. Versus des petites équipes comme les A's, les Brewers ou autres qui ne sont pas en mesure de faire ça. On parlait de Clayton Kershaw qui gagne près de 35,5 millions cette année. Il y a près de la moitié de la masse salariale des Brewers de Milwaukee.
Exact.
Selon moi, c'est là qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer.
À ajuster, oui.
Exactement.
C'est pas la hausse, dans le fond. C'est juste de plafonner ça pour dire, pour mettre un frein parce que sinon il y a comme une trop grande injustice à travers la ligue.
Exact.
C'est un peu ça.
Il y a une disparité, mais maintenant, au moins avec 10 équipes en série, ça permet aux petits marchés de se faire valoir.
Ouais.
On peut rentrer par le wild card comme les Royals de Kansas City ont fait en 2014, se rendre à la série mondiale comme ça. Puis comme ça, des petits marchés ont la chance de récolter plus d'argent en série notamment.
Effectivement, les Royals, qui ont un exemple, très bon exemple. Eux qui ont remporté la série mondiale en 2015, on voit vraiment qu'ils ont pris de l'expansion par rapport à ça. On peut aller chercher des gros joueurs. Et ils ont pu vendre plus de marchandises. Alors, ils se sont mis sur la terre davantage. Alors, merci les gars pour tout ça. Maintenant, on va passer au segment de l'émission, Vert et Rouge, vous le connaissez. On va commencer sans plus tarder avec l'affirmation numéro 1. On en a parlé tantôt, je vais le répéter pareil. Les Yankees de New York seront de la Série mondiale lors de la saison 2018.
Bon, je crois que toi, Hugo et Loi, les deux, c'est vert à ce moment-là.
Oui,
mais moi aussi, je vais aller du côté de vert. En fait, je crois que les Dodgers vont se rendre en finale contre les Yankees cette fois-ci. Ça pourrait faire justement un excellent duel, mais d'après moi, les Dodgers vont gagner par contre.
Oui, ben, vous pouvez compléter le mot pour moi. Vancouver? Vert. All right. Okay.
Vancouver, vert.
Oh, c'est oui. Vous savez ce que j'allais dire? C'est vert. Ouais, évidemment, c'est vert. J'ai prédit la victoire de la Série mondiale par les Yankees.
Tu nous as pris par surprise. Je m'attendais pas à ça. Mais effectivement, moi aussi, ça va être vert. Les Yankees qui sont très dominants et qui vont poursuivre sur leur lancée, tout simplement.
Même chose pour moi, vers Yankees-Dodgers pour moi aussi, mais ça va être Dodgers qui va l'emporter.
Oh, c'est bon. Alors, une petite confrontation, j'aime ça. Deuxième affirmation. Là, j'en ai pas parlé de l'émission, mais je crois que ça vaut la peine d'en parler. J'avais écrit un article là-dessus plus tôt cette saison. J.D. Martinez, qui est arrivé, pour ceux qui ne savent pas, J.D. Martinez est arrivé en 2011 avec les Astros de Houston, a passé trois saisons là pour ensuite aller avec les Tigers de Détroit, là aussi où il a passé trois ou quatre saisons. Maintenant, il est avec les Diamondbacks de l'Arizona, s'est fait échanger cette saison à date limite des transactions, je crois, et a connu une saison exceptionnelle. On parle d'une moyenne au bâton de 303, 45 coups de circuit, 104 points produits. Avec 4 buts volés, mais ça, c'est pas trop grave parce que J.D. Martinez est là pour son bâton et non pour sa course. Alors, l'affirmation numéro 2 est J.D. Martinez sera parmi les joueurs les plus importants de la MLB la saison prochaine si on prend en considération les statistiques qu'il a eues cette année et la saison qu'il a eue cette année.
Je vais te laisser commencer, Éloi, cette fois-ci.
D'accord, ça marche. Je vais y aller avec rouge pour moi. Martinez a été un excellent joueur cette saison. Il frappe souvent autour de 300. Mais je ne vois pas vraiment comment, à 30 ans, il peut améliorer là-dessus. Puis un joueur des plus importants des majeurs, c'est sûr que je m'attends à ce qu'il frappe 315, 320 pour être considéré comme être un des meilleurs de sa profession. Puis Martinez, il ne faut pas oublier non plus, il y a eu un match de 4 circuits aussi qui vient jouer dans la balance. Et également, comme c'est rendu un des joueurs les plus... un des meilleurs joueurs des Diamondbacks, ça va être un des joueurs les plus surveillés l'an prochain. Les équipes vont faire leur devoir avant de l'affronter. C'est sûr que là, il était... avant cette saison dans la Ligue américaine avec les Tigers de Détroit. Mais maintenant, dans la Ligue nationale, on va commencer à le connaître un peu plus, à connaître ses tendances au bâton. Puis ça pourrait possiblement faire baisser sa moyenne si on adopte des shifts face à lui, par exemple.
Effectivement.
Donc, je suis un peu du même avis, donc je vais aller dans le rouge. Ça a été vraiment sa meilleure saison l'an dernier, justement, en carrière, à l'âge, justement, de 30 ans. C'est sûr, il n'est pas sur une pente... Il est sur une pente descendante, il n'est pas sur une pente ascendante pour les années à venir. Je crois aussi justement que les équipes vont davantage le surveiller cette année versus l'an dernier où il venait tout juste d'arriver dans la nationale. Donc moi je crois un peu comme Éloi, donc je vais aller du côté rouge.
C'est bon.
Tout a été dit. Je vais aller du côté rouge aussi, même chose. Comme on l'a dit, ben écoute, oui, il y a une excellente moyenne au bâton, comme tu l'as mentionné, mais justement, c'est sa force principale. C'est évidemment que c'est pas autre chose, mais est-ce que c'est assez important pour qu'on lui accorde le titre comme étant un des meilleurs en ce moment? Je pense que sa moyenne pourrait être meilleure pour qu'il soit considéré... en fait, qu'il ait ce titre-là. Et comme Nico l'a dit encore une fois, il n'est pas sur une pente ascendante. Il est rendu maintenant à 30 ans. Donc, c'est certain que ça va encore une fois peser dans la balance. Comme on l'a dit, un match avec 4 coups de circuit, c'est sûr que bon, ça l'a aidé à ses statistiques. Et ben, ça va continuer de descendre, évidemment, avec l'âge qui va avancer encore une fois. Et ça ne sera pas meilleur, selon moi, dans l'avenir.
Effectivement, je dis même avis de vous, les gars. Je crois que ça va être rouge pour moi. Je crois que Jenny Martinez va être un joueur d'impact pour les Diamondbacks l'année prochaine. Mais les Diamondbacks sont aussi des très bons joueurs. Je pense à David Peralta, Paul Goldschmidt, qui est toujours là d'année en année et qui prend vraiment le fléau en termes de performance. Les Diamondbacks, qui sont une équipe qui vont monter, je crois, ont des jeunes joueurs. Jake Lamb, surtout, qui a connu une bonne saison cette année, joueur de troisième but. Ils vont poursuivre sur leur lancée. Peut-être que J.D. Martinez ne va pas être whistlé, justement, une question d'adoption de stratégie, surtout avec les fameux chiffres là, pour certains frappeurs. Alors, c'est sûr que si on considère tout ça, Martinez ne fera pas partie de cette catégorie de joueurs exceptionnels, si on le veut. Maintenant, troisième affirmation, les joueurs pourraient atteindre un salaire de 60 millions de dollars par année canadien, je tiens à mentionner. Parce que sinon, ça serait impossible dans un futur proche.
Si tu vas en dollars canadiens, moi je vais y aller avec Vert. On est déjà rendu environ à 45 millions avec Kershaw cette année. Donc je ne verrais pas pourquoi justement ça l'augmenterait pas, surtout si on ne fait pas justement de plafond salarial. On va toujours donner plus aux joueurs pour les attirer avec notre équipe.
Ben, moi je vais y aller avec Rouge parce que de 45 à 60, c'est quand même une assez grande différence. 45 étant le salaire canadien là, de. Ben, il est payé en américain, mais si on fait la
conversion,
oui, de Clayton Kershaw. 45 à 60, c'est quand même une très, très grande différence. Puis je vois pas comment ça pourrait augmenter autant en un futur proche, comme tu dis, parce que les joueurs sont pas payés tant que ça plus qu'il y a 5-10 ans. Donc, dans un futur proche, je pense pas que les salaires vont beaucoup augmenter. Kershaw, ça va rester un des meilleurs joueurs de la MLB, ça va rester un des joueurs les plus payés. Donc, à moins qu'il y ait une équipe très, très riche qui fasse un geste assez incroyable, je vois pas comment quelqu'un pourrait se rendre à 60 millions canadiens.
Merci.
De mon côté, je vais aller avec Vert, comme Nico. Et je pense que ça peut se refléter dans d'autres sports aussi. Je pense également au soccer. Oui. On a le même problème, on n'a pas de plafond. Là, je pense, par exemple, je vais aller un petit peu plus précisément dans mes pensées, mais on avait vu la signature de Paul Pogba. On a fait, mon Dieu, 100 millions d'euros, c'est incroyable. Et en à peine l'espace d'un an, on a des contrats, des joueurs comme Mbappé, Neymar, qui signent pour plus de 200 millions d'euros. C'est faramineux et je vais dire ça comme ça, c'est un peu ce fléau-là qui est en train de se répandre dans tous les sports. Et donc, oui, je crois que ça va être vert, les salaires vont atteindre les 60 millions de dollars canadiens très bientôt.
Moi, je suis ambigu par rapport à cette situation, mais je crois que je vais dire vert pour la simple et unique raison que on n'est pas dans la tête des dirigeants des équipes de la MLB et justement on pense à des équipes qui ont vraiment une grosse masse salariale comme les Dodgers ou les Yankees. On sait pas ce que les DG peuvent faire, alors c'est rempli de surprises, mais encore une fois c'est inestimable pour certains dans un futur proche. Je suis complètement d'accord avec toi Éloi sur ce point, mais on peut surprendre. Alors c'est juste le facteur de surprise qui fait en sorte que je penche vers le vert. Maintenant, ma quatrième affirmation, c'était par rapport aux Astros, mais vu qu'on a parlé de qui qu'on pense qui va être gagnant de la Série mondiale, je vais la sauter, je vais aller directement à ma dernière affirmation pour le segment vert et rouge. Alors, je regarde la liste présentement, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs autonomes intéressants qui s'en viennent lors de la saison morte. On pense à José Bautista, Ceci Sabathia, Jason Worth, Neil Walker, qui sont des joueurs d'impact quand même. John Lackey, Jake Arrieta, Curtis Granderson, Melky Cabrera, j'en passe. Mais parmi les plus populaires, on compte Eric Hosmer des Royals de Kansas City, Jake Arrieta et Bryce Harper, qui seront libres comme l'air lors de la saison morte. Alors, mon affirmation pour vous, les gars, est-ce que vous pensez que ces joueurs-là d'impact vont changer d'adresse lors de la saison morte?
Tout dépendant. Si tu me dis les trois vont changer, je vais y aller avec un rouge. Bon, selon moi, Bryce Harper va rester avec les Nationals. Je crois que le projet des Nationals est très beau. Présentement, on a un très bon projet. Une bonne rotation de lanceurs, des bons joueurs au bâton. On a une bonne équipe, on peut se rendre loin. Même là, tu le disais tantôt, c'est peut-être leur année pour se rendre à la Série mondiale. Oui. Donc moi, je crois que Bryce Harper va rester dans ce projet-là. Par contre, Jake Arrieta, sans doute, il va justement quitter. Je crois que tu me disais, Hugo, justement, qu'il avait mis en vente sa maison
à Chicago. Ouais, et donc, tout
je crois que ça
s'est
déjà fait à ce moment-là. Là, mais ouais. Non, c'est ça. Selon moi, Bryce Harper va rester. Donc, c'est pour ça que je vais y aller avec un rouge.
Éloi?
Oui, Arrieta a vendu sa maison durant les séries éliminatoires avec les Cubs. Ouais, donc, il était déjà prêt à partir. Eric Hosmer, puis quelques autres joueurs là, des Royals, comme Lorenzo Cain, ont fait leur dernier salut à la foule là-bas. Donc, on peut aussi dire qu'ils vont probablement changer d'adresse. On est dans un petit marché à Kansas City, on le sait. Ce qui est intéressant, c'est que on a tellement de gros noms puis tellement d'argent à dépenser. C'est ça qui est fou au baseball parfois. On a des vieux joueurs qui peuvent faire un petit contrat de 1 an, 10 millions pour frapper 220. C'est ça qui est merveilleux pour ces joueurs-là. Quand tu es vétéran, tu as des avantages considérables. Edwin Encarnacion, l'année passée, ça a pris du temps à signer un contrat puis il s'est trouvé beaucoup d'argent avec les Indians.
Puis quand tu en fais une carrière comme ça, plus l'âge avance, justement, est-ce que tu ne penses pas au côté qui est plus monétaire parce que tu sais que tu es dans une pente descendante, donc tu vas chercher tes derniers millions, exactement.
Effectivement. C'est ça. Donc, vous allez me voir tout l'hiver sur mon ordinateur. Je vais être sur la page des signatures puis je vais faire refresh à chaque 30 secondes tous les jours. Ça va être très intéressant, donc je vais avec Vert, assurément.
Sinon, même chose pour moi, Vert. Écoute, comme je viens de le dire, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui vont changer d'adresse parce que, justement, là, on a parlé des vétérans qui vont être vers la fin de leur carrière, qui vont vouloir aller toucher leur dernier million. Je pense que dans la liste qu'on a, il y en a beaucoup et ça va certainement peser sur la balance. Comme Nico l'a dit, c'est pas tout le monde qui va bouger, mais il y en a certainement, je dirais, un bon nombre qui vont bouger.
Pour ma part, tout a été dit. Ça va être vert aussi. Je vais pas amplifier sur la situation. Tout a été dit. Alors, c'est ça qui va mettre terme, les gars, à la 4e édition de Au quartier général. Gracieuseté sur le banc.ca.
Ouais.
Alors, vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine. Alors que, si je me trompe pas, on va parler de tennis.
Oui, on va passer au tennis.
Alors, on parlera de tennis. Une émission encore super intéressante. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée et profitez de la vie. ça va être ça. Ça va être ça.